Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, toujours en live, 20h-21h. C'est le créneau horaire de votre quotidienne sportive sur la radio de la diversité Beurre FM. En ce justement jeudi 8 septembre 2022, et oui, une date que nous retiendrons longuement. On parlera de quoi ? Marseille éblouissant mais craquant. C'est pépite du football. Voilà, ça c'est une nouvelle chronique qui arrive avec notre consultant Abdel. Et ces clubs français qui démarrent bien en Europe. Pour réagir avec toute l'équipe de l'émission, rien de plus simple. Le 01 53 48 3000, vous le composez à la réalisation C'est Foudil qui vous fait passer directement à l'antenne. Et le débat du jour, on le rappelle, l'OM, respectons maintenant son entraîneur qui n'est autre que Tudor. Voilà, et ben on vous donne la parole, on vous fait remporter aussi un magnifique livre aux éditions Solar. Pour cela, voilà, vous composez le numéro du standard, vous nous appelez tranquillement et on vous fait remporter ce magnifique ouvrage très sympa sur les 50 meilleurs pilotes de MotoGP. Allez, sans plus tarder, on va commencer cette émission avec justement toute l'équipe de Time Sport, sans oublier l'invité de ce soir, Geoffrey Fischer, président du fan club officiel de France de Manchester United. Allez, on y va.
Time Sport. Time Sport. Il est pour parler.
Allez, ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura Viknesh. Comment ça va, Viknesh ?
Salut Bilal, salut tout le monde. Très 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 bien. C'est ma première pour cette année, donc.
Voilà, c'est la rentrée de Viknesh avec cette magnifique casquette. C'est pour ça, Viknesh ?
Tout à fait, entre autres. Et un beau plateau aussi.
Eh bien, un beau plateau. Eh oui, juste en face de Viknesh, on va retrouver Abdel. Comment ça va, Abdel ?
Ça va, Bilal. Bonsoir à toutes et à tous. Très content d'être là. Comme tu as dit, impatient que ça débute et il y a une nouvelle chronique. Donc, on va essayer de faire ça bien avec tout le monde.
Voilà, toujours. À la bien. Avec Chekib, juste à côté. Ça va, Chekib ?
C'est Buridana, comme on dit. Ça fait un bail que je suis.
Eh ouais. Et fais sa rentrée aussi, Chekib.
Voilà, je suis ma rentrée. Je suis très content. Je salue tous les auditeurs et toute l'équipe. Et comme d'habitude, on va faire une belle émission.
Eh ben oui, Yacine, juste en face de Chekib. Comment ça va, Yacine ? Ça va bien. Yacine, il est assez triste. Eh oui, Yacine, il est triste. Pourquoi ? Je sais pas, Yacine, vraiment.
Marseille a perdu hier.
Marseille a perdu hier. Eh oui, c'est vrai, Marseille a perdu hier.
Tu t'attendais à ce que je te dise qu'il y avait la reine d'Angleterre qui décédait ?
Eh ben, eh oui. La reine d'Angleterre est décédée après 70 ans de règne, justement. Yacine. Eh oui.
Alors, elle a marqué l'histoire de son pays.
Septembre 2022. Elle aura marqué l'histoire de l'humanité, de son pays.
Du monde un peu aussi.
Hein. Oui, du monde aussi, Viknesh. Bah, c'est ça. On rend hommage à la reine d'Angleterre, c'est bien ça.
Vous pouvez marquer l'histoire du monde, mon cher Viknesh.
Oui, parce que 70 ans de règne dans un pays comme l'Angleterre, c'est pas rien. Après, elle a été depuis longtemps sur le trône.
Ouais.
Pour la succession.
70 ans, c'est pas rien.
Pour revoir quelqu'un qui règne aussi longtemps, moi je pense que c'est pas tout de suite.
C'est un monopole.
Après, c'est pas de sa faute aussi si elle a duré aussi longtemps aussi.
Bien sûr, mais après, c'est comme ça.
Heureusement qu'elle a duré aussi longtemps.
C'est grave qu'en 2022, encore en Europe, ça existe encore des royaumes.
Est-ce que c'est la dictature, tu penses ?
Mais non, arrêtez quand même. Oh, il n'y a pas de dictature. Mais non, Yacine.
On ne va pas en faire une.
On rend l'hommage. Arrête, Yacine. Non, Yacine. Il n'y a pas de dictature.
Comment ? Tu as vécu avec elle ?
Mais non, j'ai pas vécu avec elle. En tout cas, j'ai vu au travers.
Roux, hein. Tu peux être irlandais.
Ah ben, pourquoi pas.
Les Irlandais, ils ne sont pas très d'accord.
On peut prétendre, pourquoi pas, à des ancêtres anglais. Eh oui, du côté de la Californie.
Je n'ai pas une fierté, mon cher ami.
Ça n'est pas possible.
N'est-ce pas, Abdel ? Eh oui, Abdel.
Moi, j'attends bien. Je vais parler de foot.
Ah aussi, on va parler de foot.
C'est simple. On rend hommage quand même, Abdel. On lui rendra l'hommage en cette fin d'émission.
C'est une crise pour la reine d'Angleterre.
Il faut.
Voilà.
Ouais,
le foot a été inventé en Angleterre.
Alors justement, on parle de football qui a été inventé en Angleterre, ça c'est sûr. 2-0, groupe D, Abdel. Première journée de ces 6 matchs. Tottenham qui recevait l'Olympique de Marseille. Marseille a tenu, carton rouge qui a touché chamboulé, quoi.
Ouais, c'est vrai que bon, ça a été un match en deux temps, on va dire. La première mi-temps de Marseille a été plutôt, on va dire, intéressante, surtout en termes de personnalité. Ils ont joué assez haut, ils ont été assez agressifs. Malheureusement, ça a été assez faible et assez pauvre offensivement. Donc, pas la moindre occasion pour mettre en danger Hugo Lloris et les Spurs. Et après, voilà, comme souvent, comme ça arrive pour nos clubs français, on s'attendait à un début de seconde période de la même matière. Sauf que voilà, il y a Chancel Mbemba qui s'est fait expulser. Ouais. Un petit peu naïf sur le coup parce que je pense qu'il aurait pu rester au duel avec Son. Malheureusement, il s'est jeté. L'expérience de Son qui la touche au dernier moment. Et après, voilà, on sait que On voit que l'OM a bien résisté jusqu'à la 75e minute avant de prendre deux buts similaires coup sur coup. Malheureusement, voilà, je ne sais pas si c'est une victoire d'expérience, parce que je pense que si Marseille avait été à 11 contre 11, eh ben, ils auraient tenu tête. Maintenant, j'ai parlé de Tudor lundi. C'est vrai que moi, je l'ai défendu, donc je vais pas aller à l'encontre de ce qu'il a fait, mais j'ai trouvé les changements pas forcément en adéquation avec ce qu'il pouvait faire sur le banc, notamment en mettant Nuno Tavares piston droit au bout d'un moment et en faisant rentrer Sean Kolasinac, des petits changements comme ça que j'ai pas forcément compris. Maintenant, on va dire que la chance de l'OM, c'est que la semaine prochaine, ils jouent directement au Vélodrome, ils enchaîneront le troisième match au Vélodrome, donc ils ont pas le temps de réfléchir et de penser à ça. Et je pense que quand tu joues à domicile, tout de suite, t'as une pression un petit peu moins, t'as l'apport du 12e homme. Mais voilà, on va dire que il y a eu 45 minutes plutôt bonnes, surtout en première période, et c'est sur ça qu'il faudra s'appuyer pour les prochains matchs. Non, c'est une équipe très, 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 très moyenne, malheureusement. Ouais.
Hier, ils ont été moyens.
Pour moi, depuis le début
de Tottenham. De Marseille.
Tottenham a été très, très moyen. Après, je m'arrêterai sur ça. Mais voilà. Marseille a un peu subi sur la fatigue, on va dire. Mais voilà, c'est en aucun cas une victoire parce que Tottenham a été plus fort.
Oui. Alors, c'est qui? On poursuit avec Nesh et Yacine.
Je reste dans la continuité, même si sur quelques petits détails, j'ai pas eu la même analyse. Moi, j'ai l'impression que.
Et pourquoi?
Parce que Marseille, j'ai pas trouvé qu'elle a résisté. Je pense qu'elle a vraiment dominé Tottenham. Je pense que Tudor a une très bonne équipe, très très solide, avec pratiquement ultra défensive, mais qui avançait, c'est-à-dire qui défendait en avançant. Et donc, elle a littéralement
comment
marché.
Comment ça fait que tu domines et tu ne te crées aucune occasion.
On va y arriver. Il n'avait pas les moyens. S'il n'y avait pas de blessés et qu'ils avaient Alexis Sanchez, je pense qu'ils auraient mis un ou deux buts. Mais là, ils n'avaient pas les moyens.
Deux buts quand même.
Luis Suarez devant.
Il n'y a pas de si avec le football.
Non, mais attends.
Juste
termine. Oui, non, mais quand tu as des blessés, ça change tout dans un match.
C'est pour ça que tu as un effectif.
Oui, mais leur effectif, Marseille, c'est tu as bien vu que le président, là, il fait des économies. Ils n'ont pas le même budget que le Real Madrid, etc.
Laisse
pas finir. Alors, je t'explique.
Vas-y,
finis. Ils ont très bien fonctionné. Mais après, c'est vraiment le talent individuel. Ça veut dire que quand il y a eu Son qui a accéléré, Mbemba, il n'a pas réussi à le rattraper. C'est pas
intéressant.
Il n'a pas réussi à le rattraper. Mais
Marseille n'avait qu'à recruter Son au mercato d'été.
Ouais, peut-être trop cher.
Moi, j'ai trouvé que c'était le talent individuel qui a fait la différence. C'est-à-dire les deux têtes de Richardson.
Ouais, il n'est pas d'accord avec Nash.
Les centres sont très bons et Son a fait une très très bonne accélération.
Ouais.
Voilà, c'était vraiment talent individuel.
Alors, le
talent individuel, certes, ça fait la différence, mais après, c'est la force collective aussi. Parce que certes, après le carton rouge pour Mbemba, ça a été plus compliqué pour Marseille. Il fallait absolument défendre. Et les changements de Tudor, ça a été un peu bizarre. Mais je peux comprendre aussi les changements.
Pourquoi à chaque fois, on a fait l'outil numérique, tu es obligé de défendre.
Mais c'est ça, je comprends pas.
Quand tu es un grand coach, c'est là où tu dois modifier ton système de jeu pour trouver les bonnes solutions.
Porto, ils ont volé à 10, Porto, contre l'Atletico à un moment, et ils ont su faire la différence, ils ont su ouvrir le score. Après, ils ont su perdre le match, ils ont su ouvrir le score. Donc en fait, ça dépend. Après, c'est la mentalité. Après, ils se disent, Tottenham, c'est l'équipe favorite de la poule, donc forcément, il ne faut pas perdre avec une grande différence au score. Donc du coup, ils ont défendu, comme au début du match. C'était ça l'objectif. Après, oui, tout le monde dit que la première mi-temps a été maîtrisée. Certes, elle a été maîtrisée, mais ils ne se sont pas procurés d'occasion. Lloris, il a été tranquille hier. Il n'a pas fait un gros arrêt dans le match. Donc il faut savoir ça aussi. Certes, Marseille a dominé la première mi-temps, a eu la possession de la balle, plus précisément. Mais ils n'ont pas dominé dans les occasions, dans les situations de but. Après, quand ils étaient en infériorité numérique, Tottenham a su jouer de cet avantage-là. Ils ont su faire la différence. Et par exemple, les deux buts, Perisic, il se balade. Comment on peut laisser un joueur comme Perisic tranquillement comme ça centré? Richarlison aussi. Enfin, je comprends pas en fait. Certes, on est à 10, mais il faut savoir au moins
ce
bien
que
défendre.
Pas, c'est que les joueurs sur le terrain n'ont pas fait leur boulot. Tout
c'est ça en fait.
Soit physiquement, ils étaient pas au top. Soit le dispositif tactique après la sortie d'un Bomba n'a pas été efficace. Après, j'ai entendu Shakib parler des individualités.
Ouais.
Il faut savoir qu'une équipe de football, elle est constituée automatiquement quand tu joues le très haut niveau. Là, c'est la Ligue des Champions. Tu joues pas le championnat de frites omelettes quelque part.
Arrête, t'as été frites omelettes. C'est sympa. bizarre. Vignesse, tu t'arrêtes avec le fait de
Marseille n'a pas les moyens de jouer avec des champions. Autant laisser.
Mais bon, ils ont le niveau.
Autant laisser Strasbourg la faire.
Mais
oui.
Par rapport au match, bon, c'est pas une phrase que j'aime bien. Il n'y a pas de défaite, on va dire, encourageante. Mais c'est vrai, comme il a dit, comme il dit Yacine, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est pas en fait que tu laisses Perisic jouer tout seul ou faire la différence. C'est qu'à un moment donné, il y a un manque de lucidité. Tu fais que courir. À un moment donné, il y a une image qui est flagrante. Il y a une contre-attaque pour Tottenham. Au lieu d'essayer de l'annihiler, on va tous vers le but pour resserrer le bloc. Mais franchement, voilà. Je suis pas déçu de Marseille parce que c'est vrai, après c'est le football, quand il y a des absents, il y a des absents. Sanchez a été suspendu l'année dernière après un carton rouge, mais voilà, je pense qu'à un moment donné,
ouais,
il y aurait pu avoir un changement de système, mais un apport d'autres joueurs. Je pense que un mec comme Dimitri Payet, forcément,
c'est les choix de l'entraîneur aussi.
Non, un match comme ça, Payet, tu peux pas le faire entrer.
Vas-y, laisse-le parler. Vas-y, tu savais tout, Igor Tudor Junior. Mais peut-être que tu m'expliqueras. Dans la tenue du ballon, c'est vrai que Payet aurait pu apporter quelque chose sans forcément, parce qu'il n'y a pas eu de création d'occasion potentiellement. Mais tu gardes le ballon plus haut, ça te permet d'être moins en difficulté. Après, l'année dernière, peut-être que je disais aussi que.
Allez, on va voir Yazid aussi.
Igor Tudor a changé pas mal de choses. Il a fait l'analyse, mais Saint Gisender, il aurait pu très bien rentrer piston droit au lieu de mettre Nuno Tavares de l'autre côté. Donc je pense qu'il y avait d'autres choix à faire. Après, je suis pas sur le terrain, j'ai pas forcément on n'a pas la même lucidité quand on est à la télé et quand on est sur le banc, mais moi j'aurais peut-être fait autrement. Mais en tout cas, c'est encourageant, on va dire, que ces deux buts malheureux.
Alors, on va revenir au débat du jour. L'OM, respectons maintenant son entraîneur Tudor. On a avec nous Yazid, que nous connaissons très très bien, qui travaille aussi sur le coaching mental des joueurs, des entraîneurs, voire aussi des consultants sportifs et des journalistes. Bonsoir Yazid, comment ça va?
Bonsoir tout le monde, Bilal, Abdel, Viknash, Yacine.
Voilà, il y a Yacine aussi, il y a Abdel, il y a
Shakib. Yacine, Abdel, Viknash.
Voilà,
c'est ça. Bonsoir à tous les gars. J'ai rigolé un peu avec le frit omelette.
Ben, bien sûr, il aime beaucoup le frit omelette. Hein. D'ailleurs, on va s'en faire un peut-être après l'émission avec Yacine. Justement, Abdel, il est là, il aime bien sourire, Abdel. On parlait de l'entraîneur. Mais oui, il y a eu un peu de moquerie, Yacine, sur l'entraîneur Tudor. Mais c'est vrai, quand même, il a donné une bonne impression, quoi. Hier, et même depuis le début de saison.
Ouais, alors, j'ai envie de te dire, j'ai pas envie de m'arrêter sur des victoires pour me dire s'il est bon, sur des défaites pour dire s'il est mauvais, tu vois. Moi, ce que je constate, c'est que quand il est arrivé, les joueurs, ils sont un peu rebellés. Après, ça doit leur faire bizarre de passer de Saint-Pauli à Tudor, tu vois.
Ouais.
Maintenant, moi, ce que j'ai vu après derrière, c'est que Longoria, il a défendu le coach bec et ongle en disant que celui qui ne voulait pas suivre, il pouvait prendre la porte. Je ne sais pas si tu te souviens de sa petite conférence de presse.
C'est vrai.
Voilà, interview, pardon. Après, je ne dis pas que Longoria a tort, mais parce que l'institution, elle doit toujours passer au-dessus. Mais c'est pareil, c'est la façon de le dire, tu vois. Après, par rapport à Tudor, je vais te donner mon avis, moi. C'est très simple. Hein. Soit les joueurs, et surtout les plus réticents, ils ont adhéré d'eux-mêmes au projet parce qu'ils ont eu l'intelligence de comprendre où était leur intérêt, celui de l'équipe, toujours. Hein, tu vois. Et là, je te dirais que Tudor a réussi à passer un bon message. Maintenant, si les joueurs, ils ont suivi parce que forcés, parce qu'on leur a dit, sinon tu restes sur le banc, tu vois, je suis sûr que ça va forcément craquer à un moment. Parce que la motivation par la peur, si tu veux, elle a sa limite. Elle finit toujours par se tourner pas contre nous-mêmes, tu vois.
Yeah.
Tu vois. Et donc, pour moi, si c'est le cas, à un moment, Longoria, il sera certainement bien obligé de lâcher s'il a des mauvais résultats. Et là, tu peux être sûr qu'à la moindre mésentente entre les deux, les joueurs lâchent. Tu vois.
Bien sûr. Moi, je suis. Enfin, je comprends ton point de vue, mais je pense que à un moment donné, Igor Tudor, il est arrivé, il était peut-être pas dans les bonnes conditions. Après, je pense qu'il a su mettre en place en peu de temps quelques petits éléments, pas forcément tout, parce que c'est quelque chose d'assez difficile quand on sait que la saison est très longue. Mais je pense que les joueurs, ceux qui avaient beaucoup d'accroche avec Longoria, se sont dit à un moment donné, voilà, le coach, c'est lui qui a été recruté, c'est pas sa faute si on a Sampaoli est parti. Donc à un moment donné, pour notre intérêt, il y a une Coupe du Monde qui arrive, il va falloir se mettre au diapason. Et après, par rapport au championnat, c'est vrai qu'il avait des résultats dans le passé qui étaient un peu mitigés. Là, en Ligue 1, il fait pas mal de bonnes choses. Après, il avait pas goûté à la Ligue des Champions, donc il faut toujours avoir des tests, des échantillons pour connaître. Donc je pense qu'il faut lui laisser le temps, et je pense qu'on a voulu tout de suite lui couper l'herbe sous le pied.
Exactement. Sachant qu'il avait, il a...
mentalité différente, alors qu'il y est pour rien, lui vient juste faire son travail.
Ouais, c'est
voilà. Moi, maintenant, alors, c'est du court terme. On est encore sur du court terme. Sur
Oui.
Court terme, tu motives très bien par la peur et par la force, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Mais je suis d'accord avec toi, Abdel. Si c'est le cas et qu'ils ont eu cette présence d'esprit, oui, ça va se faire tout seul. Là, je suis d'accord.
Ouais, Yazid, pour rejoindre ce que tu dis, effectivement, il faut encore laisser encore un peu de temps parce que tu es très bien placé pour savoir que le mental, c'est très important dans le foot et dans le sport de haut niveau.
Que tu dois attends, le sais pas.
Mais juste, non.
Bah, bon, arrête, Yazid.
Je te pose la question.
Ben oui.
Attends, mais donc non. Il faut... C'est le temps, tu dors, il faut me laisser moi aussi le temps.
Bon, allez, on va le laisser,
voilà,
bien
ce que
sûr.
Je voilà, ce que je c'est que le temps va nous le dire. Parce que tu dors, ouais. C'est comme le mental, comme Mourinho. Il y a la méthode Mourinho qui fonctionnait très bien avec certains effectifs et qui ne fonctionnait pas du tout avec d'autres. Là, tu dors, on va voir. Dans un mois, on aura du recul, on verra. Soit ça passe, comme il dit Yazid, soit ça casse. C'est dans un mois qu'on aura la réponse.
Ouais.
Ça dépend des joueurs, selon Yazid. Hein.
Dans un mois, il sera encore là. Hein.
Encore une fois, ça dépend de ce qui les porte, justement. Je veux dire, s'ils le font parce qu'on les a forcés, parce qu'on leur a dit « si t'es pas content, tu restes sur le banc », je peux te dire qu'à un moment, c'est sûr que ça va craquer, tu vois. Maintenant, si, comme dit Abdel, ils ont pris conscience de quel était leur intérêt, et forcément, l'intérêt, quand tu joues en Ligue 1, dans un championnat, c'est toujours l'équipe, c'est toujours le club. S'ils l'ont compris d'eux-mêmes et qu'ils ont adhéré d'eux-mêmes, là, ça peut donner quelque chose de bon, tu vois.
C'est vrai.
Voilà. Après, il faut voir comment Longoria va, si Longoria va soutenir longtemps,
Tudor,
quand il y a une mauvaise passe.
Dans le foot, tu sais, il y a une règle d'or en réalité, c'est les résultats. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont levé des stars. Je me rappelle d'Ancelotti qui faisait plus jouer Rivaldo. Il y avait Mourinho qui voulait plus faire jouer Kaka. C'est des choix forts. Quand les résultats sont là, ben c'est l'entraîneur qui a raison et le joueur reste sur le banc. Si l'entraîneur il se pète les dents, c'est l'entraîneur qui saute et la star revient sur le terrain.
Et c'est peut-être rapidement un truc à rajouter avant la pause, la première.
S'il n'y avait pas l'expulsion de Bomba, je pense que Marseille était parti pour réaliser un bon résultat. Je pense que cette discussion n'aurait pas eu lieu. Malheureusement, le football, ça ne pardonne pas. Et à Marseille, le résultat devrait arriver vite. S'il y a un enchaînement de mauvais résultats, je pense que ça va être compliqué pour Tudor. Les prochaines semaines.
Alors, on va revenir. Merci, Yazid. On n'a plus trop de temps, Yazid. Hein, désolé, merci, Yazid. Un grand merci pour vos lumières.
À bientôt.
Bientôt.
On continue de vous écouter.
Mais bien sûr, Yazid.
Continuez comme ça, les gars.
Merci, Yazid, qu'on retrouvera. C'est promis en plateau pour le plus grand plaisir des auditrices et des auditeurs de Beurre FM. Geoffroy Fischer, il arrive à grands pas après la première pause. Président, on le rappelle, du fan club officiel de Manchester United. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 22 minutes, toujours en compagnie de toute l'équipe de Time Sport, Abdel, Yacine, Chekibela et sans oublier Viknesh qui arbore cette magnifique casquette. Eh oui, peut-être en hommage à la reine d'Angleterre. Eh oui, morte après 70 ans de règne, messieurs dames. On tient à le rappeler sur l'antenne de Beurre FM.
C'est un citoyen du Commonwealth.
Ben oui,
indirectement, en quelque sorte.
Toi aussi,
Non, c'est le Brexit.
Non, la Kabylie n'a pas été. Non,
jamais on a été. On a fait partie du Commonwealth.
Mais j'aimerais bien savoir si la reine d'Angleterre a déjà fait un voyage officiel en Algérie. Voilà, ça c'est pour le réalisateur. Peut-être Foudjid, il va nous trouver. Non, je suis sérieux. Le prince Charles, non, futur roi d'Angleterre. C'est le roi d'Angleterre. C'est le nouveau roi.
Les Algériens, sans que les gens le sachent, c'est possible. Hein.
La reine est morte, vive le roi. C'est ça, en tout cas. Maintenant, avant que le prince William, lui aussi, deviendra roi un jour, à mon avis. C'est ça, chez Kim.
Dès qu'il sera pubère.
Ouais.
Dès qu'il sera pubère, il prendra le trône.
Ouais. Ouais, ben ça, il est déjà. Arrêtez mes bêtises, hein. On va passer justement à l'Europa League avec notre invité de ce soir. On y va.
Time Sport. The Special One.
Eh oui, justement, il est avec nous pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM, Geoffroy Fischer, président du fan club officiel de France de Manchester United. C'est Red Devils. Bonsoir, Geoffroy. Comment allez-vous?
Et bonsoir à tous. Ça va. C'est vrai que la nouvelle de la reine m'a un peu pris par surprise, mais
justement.
Mais voilà.
Là, c'est le championnat anglais, c'est vrai, qui sera en deuil. De toute façon, le monde du football, le monde du sport chez nos voisins britanniques, mais aussi, c'est vrai qu'on l'apprend tristement après 70 ans de règne, la reine est partie, quoi. Un petit mot, on vous écoute, Geoffrey.
Oui, je pense que les hommages seront magnifiques dans les différents stades à travers l'Angleterre et tous les pays du Commonwealth ce week-end. Ça va vraiment être impressionnant. Et je pense qu'Old Trafford aussi, ce soir, va rendre un petit hommage.
Oui, justement. 21h du côté d'Old Trafford, le Théâtre des Rêves, groupe E, première journée de cette phase finale de l'Europa League face à la Real Sociedad, le club espagnol. Eh oui, il sera là, bien présent, CR7.
Oui, il sera là, il sera titulaire en pointe de l'attaque.
Justement, on a des questions à vous poser, tout simplement. CR7, c'est quoi? C'est un talk, c'est des vraies infos, comment doit-on le prendre? On nous dit, peut-être, il a signé un pré-contrat pour arriver du côté du Napoli, mais non, le Sporting du Portugal le reprendra d'ici la fin d'année. Est-ce qu'il restera? Peut-être il a trouvé aussi une entente avec Chelsea, et peut-être le départ aussi de Tuchel, on est pour cause, quoi. On vous écoute.
Ouais, c'est possible. Alors, c'est vrai que les rumeurs, il faut toujours les prendre avec des pincettes. Ronaldo voulait absolument rejoindre Manchester United pour un peu fermer la boucle après l'avoir quitté pour le Real Madrid. Et je pense que l'Europa League lui a fait un peu de mal. Il aurait préféré être en Ligue des Champions. Donc, c'est toujours un peu compliqué, surtout avec un nouveau coach et un nouveau système de jeu. Donc, c'est toujours une question d'adaptation. Mais je pense qu'il a montré que c'était un énorme professionnel qui savait s'adapter à chaque situation. Donc je pense que cette saison, ça va bien se passer et on verra bien ce qui va se passer à la fin.
Ouais, on a des réactions. Allez, sur le plateau avec Abdel et Chekib.
Geoffrey, bonsoir. Justement, on sait que Manchester a connu quelques saisons, on va dire, difficiles. Il y a eu un recrutement quand même, on va dire, de qualité avec Malacia, notamment Martinez, Anthony et Casemiro dans les derniers instants. Est-ce que d'un point de vue supporter, est-ce que ça, on est satisfait? Est-ce que ça calme un peu les saisons qui ont été compliquées précédemment ou pas du tout?
Non, je pense que c'est vraiment un gros pas en avant parce que pour une fois, le coach a vraiment reçu les joueurs qu'il voulait. Alors c'est vrai qu'il y a l'histoire de Young qui s'est éternisée, mais finalement, avec l'arrivée d'Eriksen aussi, je pense que c'est un élément très important du rouage au milieu de terrain. Et du coup, là, l'équipe, elle est vraiment, vraiment à l'image du coach. Et je pense qu'on va pouvoir enfin poser un jeu qui est défini et voulu par le coach.
Et par rapport au, je fais la transition avec le coach, c'est vrai qu'il en impose quand même. On avait l'impression que ça manquait de caractère sur le banc de Manchester depuis quelques temps. C'est vrai que c'est un club avec une grosse identité. Donc, est-ce que vous pensez aussi que le coach avant les joueurs apporte cette plus-value et peut apporter un peu de renouveau aux mancuniens?
Oui, bien sûr, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a recruté des joueurs d'un profil qu'il connaît ou des joueurs qu'il connaissait directement. Et comme vous l'avez dit, en fait, ça manquait peut-être un peu de caractère, mais ça manquait d'une coordination entre les anciens coachs et les joueurs. Là, on a l'impression que le groupe est de nouveau heureux, a repris confiance, et ça, c'est un élément essentiel dans le football. Donc je pense que là, on va vraiment de l'avant et ça peut être de bon augure pour la saison.
Oui, Yacine, c'est qui? On vous écoute.
Je vais pas lui poser une question sur le club,
Fischer,
parce qu'il est président officiellement des fans du PSG de Manchester en France. Alors j'aimerais bien savoir combien de fans vous avez ici en France et c'est quoi votre rôle? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous organisez les déplacements? Comment ça fait? Comment? Voilà.
Alors. Oui, c'est une super question. En gros, concrètement, on a des milliers de fans en France. Par contre, nous, on est une association officielle, donc on est reconnu officiellement par le club, ce qui nous permet d'avoir des tickets au prix officiel pour tous les matchs.
Ah oui, ça c'est sympa.
Juste voilà. Là, je vais juste rebondir. C'est alors, quoi oui le prix moyen d'un ticket pour un match de Manchester United?
Alors, le prix auquel nous on les vend, parce que bien sûr on les vend en euros, donc il faut prendre en compte le change, etc., c'est une cinquantaine d'euros. C'est-à-dire que pour 58 euros,
oui,
vous avez n'importe quel match, que ce
c'est
soit.
Super ça. Franchement, c'est intéressant.
Certains devraient prendre exemple.
Ouais, mais vraiment.
C'est top. Justement.
Ouais, non, mais en fait, nous on fait pas de plus-value, puisque comme on est une association officielle, on doit vendre au prix officiel.
Au prix de touche.
Donc il y a une petite adhésion à payer au départ.
Tout à fait normal.
Donc, grosso modo, pour une centaine d'euros, vous avez votre premier match.
Ouais.
Et ensuite, tous les matchs en plus que vous allez voir, c'est 58 euros par place.
Honnêtement, on raconte que des bobards, Geoffrey. Vraiment, sur les clubs anglais. Si, non, mais juste c'est moins cher qu'une place dans un championnat de Ligue 1 Emirates. Non, mais je suis sérieux.
Alors, justement, si les auditeurs de Barafam qui nous écoutent sont intéressés, au moins ils écoutent l'émission,
bien
ça leur donne une grosse plus-value. Comment ils peuvent s'adresser à toi? Comment, où est-ce qu'ils te trouvent?
Alors,
la meilleure chose à faire, c'est soit d'aller sur directement www.manutd-france.com. Donc, comme le site officiel de Manchester United, mais avec -france.com.
Ouais.
Sinon, sur les réseaux, c'est MUSC pour Manchester United Supporters Club.
France. Ouais.
MUSC France.
Super, parce que c'est vrai que cette année, je ne sais pas si CR7 va rester plus d'un an, mais c'est vrai que cette année, le pouvoir faire jouer ensemble Anthony, qui est l'avenir certainement de Man United, avec Cristiano, qui est encore toujours là, et avec Casemiro derrière, et tous les gros joueurs qu'il y a maintenant autour, c'est vrai que c'est une chance, c'est quelque chose dont les gens vont se rappeler très 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 longtemps.
Ça peut être le feu, et puis honnêtement, Old Trafford, c'est une expérience à vivre. C'est-à-dire que ne croyez pas que lorsque vous entendez à la télé qu'il n'y a pas d'ambiance, etc., c'est totalement faux. Quand vous êtes dans le stade, vous avez une superbe ambiance, et souvent quand vous arrivez à la maison, on vous dit « mais attendez, il n'y avait pas d'ambiance dans le stade », alors qu'en fait vous avez vécu et vous avez vu qu'il y avait une énorme ambiance.
Juste, Geoffrey, c'est vous qui organisez les déplacements depuis la France jusqu'en Angleterre, ou vous faites uniquement la vente des billets ?
Non, nous on fait uniquement la vente des billets parce qu'en fait les déplacements sont trop difficiles à organiser puisque les gens viennent de toute la France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de départ de Paris, donc une personne qui habite à Toulouse ou à Bordeaux aura du mal à rejoindre Paris pour aller à Manchester. Ça va lui coûter beaucoup plus cher et niveau organisation c'est trop compliqué. Donc nous on fournit les tickets. Et ensuite, on fournit tous les conseils qu'il faut et on accompagne pour aller à Manchester et expliquer ce qu'on peut faire le week-end, etc.
Et est-ce que vous avez un lien direct avec les responsables de Manchester United pour peut-être ils organisent des réunions avec tout leur comité ou leur association de fans à travers le monde ?
Oui, alors donc moi je fais partie du supporter club, c'est-à-dire les fans décideurs, ceux qui proposent des idées, etc. Mais ça, c'est moi personnellement. Au niveau du supporter club, par contre, il y a effectivement des réunions mensuelles avec le club et on a chaque année un dîner avec. Donc il y a deux personnes par supporter club et c'est un dîner avec soit le coach, soit des joueurs, etc. Et les dirigeants de Manchester pour discuter un peu de tout ça et puis avoir un moment convivial.
Un grand merci, Geoffrey Fischer. On le rappelle, président du fan club officiel de France, de Manchester United. C'est Red Devils qui joue ce soir 21h pour le compte de l'Europa League dans cette première journée face à la Real Sociedad. Merci à vous.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci. Et à très vite. Une très belle soirée. On annonce aussi que la sélection algérienne de football des moins de 17 ans vise un sacre historique lorsqu'elle donnera cette fameuse réplique aujourd'hui, 21h, Yassine, au stade Abdelkrim Kerom, du côté de Mascara, face à son homologue
de SIG.
Excusez-moi, merci de me corriger alors. Marocaine en finale de cette Coupe arabe de la catégorie des U17. Et aussi cette nuit, allez, peut-être pour la deuxième finale d'affilée, ben ça sera peut-être ou Garcia ou Anse Jaber, l'internationale tunisienne, du côté des, de l'US Open. C'est bien ça, de l'US Open. Et elle pourra, pourquoi pas, prendre après cette demi-finale, si elle a un sacre face à Garcia, l'internationale française, une nouvelle place en finale après celui du Grand Chelem fait du côté de Wimbledon en terre anglaise. Voilà, ça c'est le match se déroulera à partir d'1h du matin.
On aurait dû ouvrir même l'émission avec ça parce que ça reste quand même la fierté.
On la suit toujours.
Eh oui,
c'est Tagle de Carthage.
Ascendante depuis quelques mois.
Allez, nouvelle chronique qui arrive. Allez, on va commencer avec notre consultant Abdel. C'est parti.
Time Sport. La formation d'Abdel.
Allez, on l'écoute, Abdel.
Ouais, justement. Ben déjà, on va vous présenter cette nouvelle chronique qui fait un petit peu le tour des nouvelles pépites qui sont en France notamment. On va en ira à l'étranger un peu plus tard dans la saison. Je vais vous présenter Lenny Pieringel qui évolue au Girondins de Bordeaux, qui est né le 2 mars 2004. Donc il joue au Girondins de Bordeaux. Il est aussi sélectionné régulièrement avec les équipes de France de jeunes, avec qui il a gagné notamment les Jeux Méditerranéens cet été. C'est un joueur qui a été formé à Bordeaux depuis 11 ans. Il est là-bas. Il a signé son premier contrat pro à 16 ans. C'est le plus jeune à avoir signé un contrat pro avec les Girondins de Bordeaux. C'est un joueur qui est droitier, qui évolue de base numéro 8 ou numéro 10, mais comme ce poste est un peu révolu dans certains, chez certains entraîneurs, et ben finalement c'est il a été déporté sur le côté, comme il a été souvent surclassé. Mais c'est pas un joueur qui déborde, c'est un joueur qui rentre beaucoup à l'intérieur, qui a énormément de qualité. Il est assez frêle, mais assez quand même assez assez véloce, assez assez technique. Et j'aime beaucoup ce joueur parce que voilà, il a beaucoup de personnalité. Et on va dire que ses qualités, c'est qu'il a une très grosse vision de jeu. Il prend très rapidement les informations. Il a une prise de décision très rapide. Ça veut dire qu'il a un gros QI football. Et c'est un joueur vraiment intéressant à voir. Je pense que aussi par ce qui est important chez lui, c'est sa première touche qui lui permet de garder un temps d'avance ou de rester dans le sens du jeu, ou même de pas perdre le ballon tout simplement. Et là, des fois, il va réussir à casser la ligne, que ce soit par la passe, que ce soit du jeu court, du jeu long, ou même avec des incursions, parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un d'assez rapide. Après voilà, c'est pas un joueur qui est tout fait. Il a fait son premier match officiel avec les Girondins de Bordeaux, pardon, le 27 août dernier face à Guingamp. Depuis, il a fait deux autres entrées, mais il continue d'évoluer avec la réserve. Et c'est un joueur, voilà, il a que 18 ans, il est encore jeune. Je pense qu'il aura du temps de jeu. Son contrat, il dure jusqu'en 2024. Bordeaux est amené à jouer le haut du tableau. Donc je pense à mettre en avant ses talents, les talents du centre de formation, parce qu'on sait qu'ils ont connu un été très difficile, mais qu'ils arrivent quand même à sortir de très bons joueurs. Et on va dire que au niveau des axes de progression, c'est peut-être un peu plus de statistiques, comme on sait que c'est un monde de statistiques, peut-être un peu plus de passes décisives, un peu plus de buts. Et s'il est amené à revenir dans le cœur du jeu, peut-être cet apport un peu plus défensif, de gagner un peu plus de duels. Mais voilà, c'est vraiment un excellent joueur qu'il faudra suivre cette saison. Et franchement, il a énormément de potentiel. S'il y a un joueur auquel on peut le comparer, si je grossis bien la chose, on va dire que c'est un petit peu Thomas Lemar, droitier, capable, comme j'ai dit, d'évoluer dans le couloir, mais qui sait se réaxer pour apporter le surnom. Donc voilà, je vous invite à le suivre.
Alors justement, on rappelle le nom de ce joueur.
Lenny Pieringel.
Voilà.
P-I-2-R-I-N-G-U-E-L.
Pieringel, à suivre de près, tout comme Abdel et sa fameuse chronique concernant les jeunes pépites du football français, et même aussi d'ailleurs. Vous restez avec nous, chères auditrices, chers auditeurs de BORFM. On va revenir, c'est promis, avec Viknesh et Yacine, et aussi chez Kib, sur les coupes européennes.
Time Sport revient dans un instant. 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Et voilà, 20h39, vous l'aurez entendu, c'est Yacine, frites omelette, on va se le faire après avec Viknesh et même Chekib, on n'oublie pas.
Viknesh n'aura pas droit.
Ah bah pourquoi ?
Il est jeune.
Ah bah arrête Viknesh. On sait pas qu'est-ce qu'il a. Il est amoureux en ce moment avec Nash.
Très, très amoureux.
Justement.
Très amoureux.
Le 01-53-48-3000. Vous réagissez, tout comme Geoffrey Fischer, eh oui, qui est avec nous pour parler de l'Europa League. On va continuer avec ces coupes européennes, justement, qui. C'est pas beau à voir en ce moment. On y va.
Time Sport, le mode pressing.
La place Masséna, bondée de supporters de Cologne, cet après-midi, heurte avant ce Nice-Cologne, un supporter allemand en urgence absolue. Yacine a pris une chute tout de même de 5 mètres dans le stade. Le match donc a débuté à 19h40. Il y a pas mal de matchs ce soir qui ont déjà débuté. On le rappelle, bon, on a Rennes qui l'a remporté face à Larnaca. Zurich, Arsenal aussi, ça a été les Gunners qui l'ont remporté 2-1. Sans oublier aussi la Roma qui a perdu par 2-1 face à Ludogorets. Et sans oublier aussi le fameux match des Canaries ce soir face aux Grecs de l'Olympiakos, à 21h. Terminé avec le PSV face à Glimt, 1-1. Et sans oublier Helsinki face aux Betis, 2-0.
On te sent très marqué par la disparition de l'arène.
Ouais, on te comprend. J'en perds. Et ouais, c'est ça. Viknesh. On rappelle, la reine d'Angleterre s'en est allée.
Exactement, ouais. Et il y aura peut-être les matchs ce week-end en premier qui seront peut-être reportés. C'est une suggestion, après, il faut voir.
C'est ça. Viknesh.
Alors,
Nice-Cologne.
Nice-Cologne, après, pour parler des clubs français plus généralement, moi, je pense qu'en fait, on l'a vu en Ligue des Champions, le favori a répondu présent, le Paris Saint-Germain, il a répondu présent, Marseille a fait ce qu'il pouvait, mais finalement, il a perdu. Et je pense qu'en fait, le seul club qui peut faire la différence en Ligue Europa Conférence, c'est Monaco. Les autres, moi, je les vois pas trop passer. Peut-être Rennes, s'ils peuvent. Mais sinon, je vois Nice et Nantes. Pour moi, il y a aucune chance.
Si Rennes ne passe pas contre l'Arnaca, ils vont mieux.
Non, oui, ce match-là, ils ont gagné. Heureusement, moi, je parle de la phase de poule. Je parle pour se qualifier après, pour la suite. Après, je pense qu'il y a que Rennes et Monaco qui peuvent espérer se qualifier. Nice et Nantes, pour moi, c'est pas possible. Ils ont pas l'effectif pour. Et ils ont pas la mentalité pour, je pense aussi. Nice, ça pourra le faire, mais en deuxième partie de saison, parce qu'ils ont beaucoup de recrues. Lucien Favre, je sais pas si ça va le faire. Si c'est la bonne philosophie avec cette équipe-là, il a beaucoup de joueurs qu'il n'a pas forcément voulu, avec Barclay, Ramsey, etc. Donc je ne suis pas sûr que ça marche à Nice. Nantes, l'effectif, ce n'est pas du tout ça. Donc je pense qu'il n'y a que Monaco et Rennes qui peuvent faire la différence et se qualifier. Après, faire une épopée avec ces clubs-là, j'y crois pas du tout. Mais c'est les deux clubs que je pense qui peuvent faire quelque chose dans cette compétition. Rennes et Monaco, mais sinon non, les autres, j'y crois pas une seconde. Après, de toute façon, on est jeudi, et en France, on est habitué avec les jeudis noirs où les équipes françaises fassent que des mauvaises performances. On est habitué avec ça. C'est pas une compétition qu'on joue vraiment pour aller au bout. Peut-être Marseille s'ils sont qualifiés, Lyon, mais parce qu'ils ont la mentalité européenne. Mais les autres clubs français, en tout
cas,
c'est
ça. Ça fait des années que Rennes joue les compétitions européennes.
Oui, mais nice, je les vois pas faire. Je les vois pas aller le voir, en fait. Nice, je crois pas.
Il ne faut pas condamner les clubs comme ça dès le départ. Si. Nantes, ouais, ça a été un grand club français.
Oui, ça a été, comme tu dis, ça a été. Ça a été,
mais quand même, il y a toujours cet ADN. On ne peut pas les condamner, surtout dans un stade.
Oui, après, tu as l'ADN. Bien sûr, tu as l'ADN, tu as l'effectif qui compte, en fait. Aujourd'hui, comme joueur qui est bon à Nantes, certes, à Ludovic Blas qui est resté, mais ce qui sera vraiment performant.
On ne connaît pas tous les joueurs, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne les voit pas, qu'ils ne sont pas médiatisés, qu'ils ne sont pas bons.
Bah, si, après, tu as des matchs violents, tu sais les matchs, tu regardes, tu sais qui est plus ou moins performant. Et au niveau européen, je ne vois aucun joueur à la hauteur.
Preuve, ce soir, la Roma, elle perd contre Ludo Gomez.
Ouais.
La Roma, avec son armada d'effectif, avec son coach.
Il y a quand même une différence entre perdre perdre un match et aller jusqu'au bout d'une compétition. Là, à Saloma, on sait très bien qu'elle peut perdre un match, mais c'est quand même, ils ont gagné une Coupe européenne l'année dernière.
C'est le cas pour Rennes, Nice.
Tu te rappelles la dernière fois que le Bayern Munich a gagné la Champions League, ils avaient perdu en septembre en début 3-0 contre Lyon.
La saison passée de Real de Madrid.
Real Madrid, il a perdu 1-0 contre le Sheriff.
Mais c'est pas le problème, dans un premier match, on peut pas dire que les clubs français n'iront pas jusqu'au bout.
Alors là, c'est le terminé.
Cette année, elle est très importante pour les clubs français. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est tout simple. Ça fait très longtemps qu'on dit les 5 grands championnats. Les cinq grands championnats. Alors que les dirigeants de football français, ils se moquent des gens et ils font que de vendre, ils n'achètent pas, ils font pas.
Je suis pas d'accord.
Laisse-le terminer. Et donc le championnat français, il est en train de s'affaiblir. Et bientôt, on arrêtera de dire les 5 grands championnats, on dira que les 4. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas du tout sûr que le championnat français est supérieur au championnat portugais. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir 4 grands pays et après, il va y avoir France, Portugal,
la Hollande, la Belgique.
Les clubs portugais.
Il y en a 2 clubs français. Il y en a 3.
Oui, il y en a 3. Mais ces 3-là, ils font la différence. Il y en a combien en France en réalité? Sans être chauvin, il y en a combien?
Il y en a un.
Voilà, vous l'avez dit.
C'est Marseille. Hein.
C'est pour ça. Non, mais arrête, on est sérieux. Je parle pas de l'histoire du club d'aujourd'hui. Et attends, juste un truc. Et les résultats vont le dire. Cette année, les résultats vont dire quelle est la place du championnat français.
Bien sûr.
Alors, on va écouter.
En termes de moyens, je trouve que t'es dur parce qu'il y a eu des investissements, notamment faits du côté de Rennes depuis 2 ans. Nice aussi, ils ont fait venir un investisseur. Donc, en termes de moyens purs, après, peut-être qu'en adéquation avec les joueurs, tu n'es peut-être pas d'accord sur le recrutement, mais il y a des moyens qui sont là. Faut bien faire la part des choses entre les joueurs qu'on apprécierait voir et les moyens qui sont mis. Peut-être qu'ils ne sont pas mis au bon endroit, mais il y a des moyens qui sont mis. En plus de ça, c'est vrai que. Il y a 3 équipes qui sont en Europa League, une qui est en Ligue Europa Conférence, c'est Nice. Donc potentiellement, on a vu que Rennes l'année dernière avait fait limite un sans faute en phase de poule. Et après, pour moi, vous le savez très bien, on n'attend pas de ces équipes qu'on a citées d'aller en demi ou en finale. Déjà, pour redorer un peu le blason et gagner des points, faut déjà sortir des poules. Après,
il faut procéder étape par étape. Mais attends, les clubs français aujourd'hui, malheureusement, moi je suis français, je suis pour les clubs français, mais il faut prendre du recul et faire preuve d'impartialité. Les clubs français aujourd'hui, ils ont le niveau, à part le Paris Saint-Germain bien sûr, de la Conference League.
L'Europa League,
ils vont gagner 2-3 matchs et tout, mais personne ne croit que l'un des clubs français va remporter l'Europa League, et c'est ça qui est triste.
Mais pour moi, vous faites un parallèle qui est trop large. Comme il a dit Yacine, on fait étape par étape déjà. Il y a du retard, certes, léger de la part des au classement UEFA des autres nations, mais si tu gagnes et que tu fais déjà passer 3 sur 6 ou 4 sur 6 des équipes en 8e de finale, ça te fait gagner des points.
Et après, au fur et à mesure, tu
vois comment la chose se passe. Mais pour moi, on est trop sous le prisme de la victoire. C'est pas les mêmes choses. Certes, il n'y a pas le même
plus,
ADN.
Abdel, il y a une chose qui est très importante, surtout l'Europa League. Aujourd'hui, quand on voit les clubs qui jouent l'Europa League, la plupart, c'est des clubs qui ont pratiquement
de Ligue des Champions.
Ont joué les premiers rôles en Ligue des Champions.
Le problème, je vais t'expliquer c'est quoi. La France, c'est un pays théoriquement plus riche que le Portugal, plus riche que l'Espagne, plus riche que l'Italie. C'est pas normal que nous, je parle pas que de cette année, je parle depuis 10-20 ans, c'est pas normal qu'en France, les championnats français soient inférieurs à ces pays-là. Il n'y a pas d'excuse. Les dirigeants français, à un moment, il faut qu'ils expliquent.
Ça, c'est des modèles économiques.
Aujourd'hui,
Nasser Khalifi a fait une déclaration quand même qui est très 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 choquante pour l'avenir du football européen. Il dit qu'il y a même des clubs qui sont endettés à hauteur de 1,3 milliard. Des clubs comme le Barça, peut-être le Real. Il y a beaucoup de clubs, de grands clubs qui gagnent et qui ont gagné la Ligue des Champions sont hyper endettés. Parce que par contre en France, la DNCG elle a toujours veillé à ce qu'aucun club en France ne puisse avoir un centime de dette, parce que sinon c'est la relégation tout de suite. Donc le modèle économique français est complètement différent. Si on laisse comme le Portugal, comme la Belgique, comme l'Espagne, comme l'Italie, je pense que les clubs français peuvent avoir des budgets colossaux. Si on prend par exemple le cas du Barça, hein. D'ailleurs ils sont toujours dans le truc. Si la banque, comme ils disent, Catalonia, ne sort pas le chiquier chaque année, je ne pense pas que le Barça il serait aujourd'hui à jouer la Ligue des Champions. Attention! Le modèle économique français est complètement différent des autres pays.
Bien sûr. Et moi, on n'oublie pas ces clubs français. J'ai du mal à savoir ce qu'on attend, parce que quand on regarde l'année dernière, je faisais le parallèle avec Rennes qui est sorti invaincu. Lyon, ils étaient qualifiés au bout de 4 matchs après sur 6. Donc en fait, à partir de là, il y a quand même des possibilités. Il faut faire étape par étape. On sait qu'il y a des clubs qui sont pas forcément à leur place, mais ça arrive de faire des saisons un peu difficiles. Mais justement, descendre d'un échelon, ça devrait pouvoir permettre d'être plus performant dans une
compétition. Et de gagner en expérience.
Voilà,
aussi,
surtout.
En expérience.
Après, moi, je comprends le point de vue. Hein, il y a aucun point de vue qui est meilleur que l'autre, mais je pense qu'on est trop pressé.
Il y a une réalité.
Tout à l'heure, on parlait de Tudor, par exemple. On disait que là, dans un format court, ça peut être quelque chose. Et dans 6 mois, ça peut être autre chose. C'est pareil pour les clubs. Il peut avoir un manquement là, mais ça peut être bien dans 3 mois. Et après, peut-être que ceux qui jouent tous les 3 jours, il y a des clubs qui n'ont pas forcément un effectif aussi large que les clubs français. Et dans les clubs qu'on joue, il n'y a pas forcément des mecs qui vont jouer la Coupe du Monde.
Pour revenir par rapport au cas que Cristiano Ronaldo, tout à l'heure, on a soulevé. À un moment donné, on l'avait annoncé du côté de Naples, du côté du Sporting de Portugal. Ouais. Et on connaît Naples, on sait comment ça fonctionne. Au Sporting de Portugal aussi, parce que pour ramener Ronaldo, il faut vraiment que derrière, info intox.
C'est une information qui est sortie, mais on ne sait pas. Personne ne l'a confirmé.
C'est son agent qui a pris sa valise et l'a proposé à tous les clubs avec lesquels il a négocié. Il faut savoir que dans le monde des médias, il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas derrière leur truc à attendre que quelqu'un leur balance une information. Il y a des gens qui bossent, des gens qui travaillent. C'est pour ça que l'information elle circule. C'est pour ça qu'il y a le haut niveau et le bas niveau. Donc ça, c'est un autre débat. En France, le modèle économique ne permet pas aux clubs de pouvoir avoir des extensions. On va dire, derrière, c'est des caisses noires. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les clubs français n'arrivent pas à sortir du lot au niveau des compétitions européennes. Il y a aussi une autre problématique, c'est la problématique des entraîneurs. Les entraîneurs en France, il n'y a pas assez d'entraîneurs qui ont l'expérience de jouer les compétitions européennes. Ils n'ont pas assez d'expérience. Si demain, ils faisaient appel à des entraîneurs, demain, si tu arrives à ramener Mourinho, si tu arrives à ramener des entraîneurs qui ont l'habitude de jouer des compétitions européennes, peut-être que là...
Alors, pourquoi ils n'arrivent pas à ramener les grands entraîneurs ?
Parce que tu ne peux pas ramener Mourinho pour des clopinettes, mon cher ami. Aujourd'hui, s'il y a un club qui peut l'avoir, c'est bien le Paris Saint-Germain. Les autres ne pourraient pas se permettre d'acheter Mourinho. Mourinho, son salaire, c'est entre 1,5 million, voire 2 millions d'euros mensuels. Et encore, je suis gentil.
Parce que quand les autres championnats ont, entre guillemets, avec les classes noires et les clubs français,
je dis pas, les modèles économiques sont complètement différents.
Mais après,
le modèle économique en France, c'est un club qui est déjà en troisième division. Voilà. Les dirigeants français acceptent un modèle qui les pénalise.
Alors on termine l'émission.
Bah après, le modèle économique en France,
il n'y pénalise pas. Parce que pourquoi le football, c'est une compétition européenne, le football en France, c'est pas ça.
Rick Nash, on termine
rapidement. Pour rapidement terminer dessus, c'est que le modèle économique français, comme il a dit Yacine, en fait, il est très 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 surveillé. En fait, on a la DNCG qui est là. En fait, tout est calculé, tout est millimétré. Donc il y a l'économie qui est très très. Et en plus, il y a tout ce qui est impôts aussi, tout ce qui est le côté fiscal. En France, c'est énorme par rapport aux autres pays.
Tu payes
souvent, quand on parle de Paris Saint-Germain, les impôts du PSG
merci
avec les autres championnats, c'est énorme.
Donc, merci Nick Nash. Et aussi, merci à toi Yacine, sans oublier Abdel avec sa nouvelle chronique. Et Chekim, notre consultant, un grand merci à vous, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre sur l'antenne de Beurre FM, 20h, 21h. On n'oublie pas, justement, et voilà, le triste décès de la reine d'Angleterre à 96 ans, sans oublier le nouveau roi qui prend le nom de Charles III, et elle avait bien effectué un voyage en Algérie, après le tremblement de Chlef, voilà, en octobre 80, au Maroc et aussi en Tunisie. Voilà. Bye bye et à demain.
Bravo.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.